On va continuer et ce matin, donc, je vais partager le dernier volet. Enfin, dernier volet, ce sera jamais un dernier volet parce que avec la parole de Dieu, on n'a jamais fini, n'est-ce pas? Mais sur cette petite série, mais qui sera pas qu'une petite série parce que vous savez, je vous l'avais dit, le thème de la joie. Eh bien, c'est ce thème que Dieu avait mis sur mon cœur pour toute cette année. Et voilà. Donc, en tout cas, ce matin, je vais faire la troisième partie, par rapport à ce que j'avais commencé sur ce qui fait la joie de la fiancée. Et je vais essayer de vous rappeler les points principaux que j'avais développés les deux premières fois. Hein, tout d'abord, le premier élément, hein, c'est que la fiancée, bien sûr, c'est celle qui deviendra, alors qu'on vivra l'éternité, l'épouse de Christ. Et je vous avais rappelé que quand la Bible nous parle de ce temps de fiançailles, et en tout cas du temps de Jésus, et bien l'engagement des fiançailles, enfin cette alliance était beaucoup plus forte que ce qu'on voit, enfin ce qu'on vit aujourd'hui quand on s'engage en tant que fiancé. Mais c'était quasiment comme un mariage, à part le fait que les fiancés vivaient pas ensemble et qu'ils n'avaient pas de relations sexuelles ensemble, mais leur engagement était un engagement qui était aussi fort que les liens du mariage. Donc ça, c'était un premier élément pour bien comprendre la portée de ce que la Bible nous dit quand elle nous parle du fait qu'on sera l'épouse de Jésus. Et donc, si on sera, c'est qu'aujourd'hui, on est la fiancée. Alors après, je vous avais partagé sur le fait que, enfin, il y a l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance avec cette loi mosaïque, hein, qui a une particularité, c'est que la loi, elle était là pour, porter un jugement sur nos actes, mais qu'aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle alliance, il y a déjà une énorme différence, c'est que c'est plus cette loi qui est seulement la loi écrite, mais c'est surtout cette loi divine que Dieu lui-même vient écrire dans nos cœurs. Et ça fait une différence considérable, parce que Dieu vient lui-même écrire dans nos cœurs, et non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans notre esprit. Et que aussi la particularité, c'est que cette loi n'est plus là tant pour juger nos actes, mais en tout cas avant de porter un jugement sur nos actes, si je puis l'exprimer ainsi, elles sondent nos intentions et que, enfin, c'est quand même, c'est pas seulement le résultat, mais c'est déjà l'intention que Dieu discerne dans nos cœurs. Et ça, il faut jamais qu'on l'oublie. Et puis, bien sûr, je vous avais rappelé, mais bien sûr, je sais que vous le savez, mais ce ne sont pas nos actes qui nous sauvent, ce sera jamais nos actes qui nous sauvent, mais même si nos actes sont les meilleurs possibles. Mais en tout cas, nos actes, et là ça c'est quand même une certitude, c'est que nos actes vont montrer que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Ça c'est quelque chose qui coule de source, on va dire que c'est une la palissade. Après, ce que je vous avais partagé aussi, c'est cette notion où Dieu, donc Jésus est reparti au ciel. Et en repartant au ciel, il avait fait cette promesse, mais qui est tout à fait compréhensible justement quand on regarde la façon dont les fiançailles étaient faites à l'époque. Et là, on réalise d'ailleurs la cohérence de la parole de Dieu. Dieu, Jésus, est donc remonté au ciel et parti nous préparer une demeure, c'est ce qu'il nous dit. Et par contre, la fiancée, elle, eh bien, elle est restée sur terre et elle est là, elle est en train de se préparer pour vivre plus tard avec son époux. Donc ça, on rentre vraiment dans le cadre de ce qui se passait à l'époque, au temps de Jésus. Après, je vous avais partagé sur le fait que cette notion de la grâce dans la nouvelle alliance, et j'avais dit cette phrase, hein, il nous est impossible de comprendre la grâce, ça c'est ma compréhension, mais je pense qu'elle est juste. On a certainement beaucoup de mal à comprendre la grâce. Pour moi, je dirais même c'est impossible. Si, enfin, en tout cas, dans la nouvelle alliance, si on laisse pas Dieu écrire sa loi dans nos cœurs et dans notre esprit, se dire que Dieu va nous révéler toute la portée de sa grâce. C'est-à-dire que la grâce dépasse, mon sentiment en tout cas, dépasse notre intelligence. Et déjà, pour moi, c'est par grâce que Dieu vient écrire dans nos cœurs. C'est une grâce extraordinaire qu'il nous fait. Parce qu'en venant écrire dans nos cœurs, il nous permet de comprendre tellement de choses. Et en tout cas, moi, voilà, je dis la chose suivante, c'est que il me semble que plus je laisse Dieu écrire dans mon cœur ses lois, et bien plus j'ai la compréhension de sa grâce. Et puis, je vous avais dit aussi, quand vous parliez de la grâce, que la grâce n'enlève pas la sainteté, et en tout cas, la grâce ne me donne pas le droit de mépriser la grâce, c'est une expression, mais que je crois profondément. Alors ce matin, je vais donc particulièrement m'attacher à vous partager sur la joie en tant que telle. J'ai fait des recherches sur ce qui se passe dans notre cerveau. Alors je suis pas je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je suis pas chimiste, je pense quand même que c'est intéressant de s'arrêter quand même sur cet aspect-là, parce que en tout cas ça nous permet de comprendre des choses. Alors je vais vous en parler un petit peu avec mes mots à moi, ça sera peut-être pas le top, mais j'espère vous faire comprendre un certain nombre de choses quand même. Je pense que vous vous souvenez, de ce que Thierry nous avait partagé quand il nous avait fait ce schéma avec les trois patates là, l'esprit, l'âme et le corps. Et il nous avait, et dans une des patates, notre âme, dans ce que nous sommes, nous, il y avait donc cette notion de volonté, d'intelligence et d'émotion. Alors ce matin, je vais vous parler de cette émotion qui est la joie, qui fait partie aussi de ce que nous sommes. Et je vais d'ailleurs tout de suite vous partager un schéma. Je vais vous le mettre, voilà. Donc, normalement, vous avez ce schéma. Donc, on va un petit peu partager sur cette notion d'émotion. Ça vient pas de moi, je vous ai dit, j'ai fait des recherches, mais voilà. Il y a 6 émotions primaires en chacun de nous. Donc, ce petit schéma, je vous le transmettrai, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si vous le voyez bien, mais. Alors, 6 émotions primaires. Il y a la joie, qui est une des émotions primaires, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. C'est les 6 joies qui font partie de ce que nous sommes, qui font partie de nos émotions primaires. Alors bien sûr, vous connaissez les couleurs primaires, et puis les couleurs primaires se mélangent entre elles, et il y a une infinie variation de couleurs du coup. Eh bien, pour les émotions, c'est pareil. Il y a les 6 émotions primaires, et puis derrière ça, il y a bien sûr tout un ensemble d'émotions qui viennent se mélanger. Mais voilà. Donc, après, là, une des particularités quand même, et puis après, je vous expliquerai un petit peu une des particularités qui me semble importante, et que je voudrais souligner ce matin, c'est que les émotions primaires, ce sont des émotions qui sont innées. C'est-à-dire que ce sont des émotions réflexes. C'est-à-dire qu'on les réfléchit pas. On cherche pas. Comment je vais dire ça? C'est-à-dire qu'on va ressentir l'émotion avant même qu'on en prenne conscience. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important à souligner effectivement. Et on prend ça l'émotion jaillit dans notre intérieur, on n'en a même pas encore conscience. Et d'ailleurs, ces émotions primaires, elles servent à nous protéger, par exemple, avant même qu'on prenne conscience d'un danger, notre corps réagit parce que l'émotion primaire, rentre en action. Et ça, donc, c'est un des éléments. Mais voilà, donc, je souligne aussi autre chose, c'est que parmi les 6 émotions primaires, je les répète, il y a donc la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. une seule des émotions, dans ces six émotions primaires, a une connotation joyeuse. Une connotation positive plutôt. C'est la joie. Toutes les autres émotions, elles ont plutôt une connotation négative. Alors, je vous rappelle, on est en train de parler des émotions primaires qui jaillissent en nous avant même qu'on en prenne conscience. Il y a donc, quand on, enfin, au niveau des émotions, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'il y a tout un cheminement qui se fait. Donc, ça se fait très vite, hein, mais il faut savoir que cette émotion primaire, j'en ai pas encore conscience qu'elle réagit, qu'il y a quelque chose qui se dégage en moi, et puis elle va passer, il y a tout un chemin, elle va passer à un autre endroit du cerveau. C'est-à-dire que là, on va commencer à en prendre conscience, on va attaquer la raison, et puis on va donc raisonner avec cette émotion primaire qui a agi en nous, et parce qu'on va commencer à raisonner, on ne va plus partir sur des gestes réflexes, mais des gestes qu'on va décider quelque part. Alors ça, c'est vraiment un schéma très rapide que je vous dis, mais vous pouvez vous-même faire des recherches et puis vous verrez ce qui est en train de se passer. Alors, je vous disais que dans ces six émotions primaires, une seule est une émotion avec une connotation positive. C'est donc la joie. C'est ce qu'on pourrait appeler l'émotion plaisir. Et quand on reçoit cette émotion, ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui se passe dans notre corps, c'est qu'il y a une décharge, ce qu'on appelle une décharge de dopamine, qui elle va provoquer une sensation de plaisir intense. Il y a des endorphines qui sont produites dans nous, et les endorphines, ce sont des antidouleurs. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer quand on reçoit cette émotion plaisir positive. On a cette sensation là. Juste avant d'aller un peu plus loin et puis partager un petit peu sur ce schéma que vous avez devant vous, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une différence justement entre les émotions et les sentiments. Les émotions, il y a une énergie, une émotion va se traduire par des réflexes, par des choses que notre corps va produire, mais elle va se traduire par un mouvement corporel, par exemple, mais qui va durer que quelques minutes, si on fait référence à la peur, à la colère, etc. Mais l'émotion, elle, va donner une forme d'énergie qui va se traduire dans un mouvement corporel, mais elle, qui va être plus durable. C'est-à-dire, après, il y a cette notion de réflexion, de décision, on va faire intervenir, notre sagesse, quoi, nos connaissances, et pour gérer ces choses-là. Si je prends la définition de la joie dans le dictionnaire, il nous est dit que la joie est une émotion vive, agréable, limitée dans le temps. C'est un sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. La joie est une notion qui désigne, dans son sens le plus courant, le sentiment d'une personne en présence d'une autre personne, d'une situation ou d'un bien qui lui convient. Et j'aimerais, je le souligne, qu'on s'arrête un petit peu, je vais le reprendre tout à l'heure, mais qu'on s'arrête sur cette notion-là, cette notion où la joie va être motivée par une situation d'un bien qui nous convient, à nous. Donc, je reviendrai tout à l'heure dessus parce que il me semble ça important. Autre réflexion, c'est que si on prend, alors vous savez que dans le Nouveau Testament, il a été écrit en grec, au moins pour tous les épîtres, et la racine grecque du terme joie, c'est kara. Et kara, c'est, enfin, si on prend le terme grâce, par exemple, dans le Nouveau Testament, c'est charis. On s'aperçoit qu'entre cara et charis, ben, enfin, il y a la même racine. Et on peut se dire que la joie, eh bien, elle est à la fois un don de Dieu et une réponse à ces dons. Elle vient quand nous sommes conscients de la grâce et de la faveur de Dieu. Et ça se rapproche du fait, mais je reviendrai, je vous le dis de nouveau, on en reparlera tout à l'heure, mais d'un bien qui nous convient. Alors, dernière réflexion, enfin ça ne vient pas de moi, hein, c'est une phrase que quelqu'un a dite, il a dit ceci, la foi peut être sans allégresse et sans transport, mais la foi sans joie n'est pas la foi. Je pense que c'est juste. La source de la joie est en Dieu, car l'âme a été faite pour Dieu, et c'est en Dieu seul qu'elle trouve son bonheur. Ça, c'est ce que nous dit quelqu'un. Je n'ai pas retenu son nom, je ne l'ai pas retrouvé, mais voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je vais revenir sur ce petit schéma que vous avez devant les yeux, parce qu'il y a des choses intéressantes quand même dans ce schéma. On appelle ça la roue des émotions. Et on va retrouver dans cette roue les 6 émotions primaires que je vous ai évoquées. Par exemple, ici, on va retrouver le terme joyeux, la joie. On va retrouver la peur, apeurée. On va retrouver la colère. On va retrouver le dégoût. On va retrouver la tristesse. Voilà. Enfin, dans la roue des émotions, on va retrouver nos 6 émotions primaires, mais aussi on va retrouver d'autres émotions qu'on retrouve d'ailleurs dans des textes bibliques comme la confiance, la paix, le fait de la gentillesse, le fait d'être proche ou en communion, hein, le fait d'être aimable, etc., etc. Ça, il suffit qu'on reprenne certains textes bibliques qui nous parlent de ce qu'on doit être, de ce qui caractérise. Je vais vous donner une référence, j'ai les yeux, par exemple, si on prend Galates 5:19, hein, par exemple, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui nous parlent des fruits de l'esprit, et dans ces fruits de l'esprit, ben, on va retrouver justement ces émotions, enfin, que je viens notamment de vous citer. Alors, dans cette roue des émotions, il y a quand même des petites choses intéressantes à noter, hein, c'est que, alors, ici, vous voyez, on a des flèches en haut, en bas. Je ne sais pas, parce que ici c'est caché peut-être. Non. Alors, c'est marqué hypertonie, hypotonie en bas, là vous ne le voyez pas parce qu'il y a la barre, émotion positive, émotion négative. Donc ici, selon si on a la flèche qui va vers le haut, ce sont donc des émotions qui vont nous emmener vers le haut. La flèche qui va vers le bas, c'est des émotions qui vont nous emmener vers le bas. Si je prends ces émotions-là, eh bien, on peut dire que, encore une fois, je répète, ce sont des émotions qui vont nous emmener, qui vont nous faire du bien en nous emmenant vers le haut. Si je prends ces émotions-là, ici, on est entre les émotions positives et puis l'hypotonie, hein, qui nous emmène vers le bas, mais ce sont des émotions qui vont agir en nous comme des choses qui vont économiser notre énergie, mais pour notre bien, on va dire ça comme ça. Si je prends ces émotions-là, eh bien ça, ce sont des émotions, là on est vers des émotions négatives, ce sont des émotions qui, contrairement à celles-ci qui vont nous entraîner vers le haut, ces émotions-là vont nous entraîner vers le bas. Et puis, je prends ces émotions-là, hein, qui là, on va vers le haut, et là, on va du côté négatif, eh bien, on peut dire que toutes ces émotions-là sont des émotions qui vont dépenser notre énergie, hein, c'est dépenser donc côté négatif, mais soit pour nous sauver, hein, par exemple, si on a peur de quelque chose, qui peut être un danger pour nous, ben on va fuir, hein, c'est pour nous protéger, mais c'est aussi une dépense d'énergie qui pourra aussi nous détruire. Hein, par exemple, le fait d'être agressif ou colérique, sont des choses qui peuvent aussi, qui pourraient aussi nous détruire. Donc voilà cette Mais enfin, il y a toute une réflexion d'ailleurs qu'on pourrait mener sur ces grilles. Ce serait intéressant, peut-être. C'est pour ça que je vous la mettrai. Hein, je vous l'enverrai. Vous pourrez y regarder, y réfléchir un petit peu. Parce que finalement, chacune de ces émotions-là ont quand même un impact dans notre cœur et dans notre corps, si je puis dire ça comme ça. Donc là, je vais arrêter le partage de cette roue. Mais donc, je reviens particulièrement sur cette notion d'émotion, enfin de la joie. Quand la Bible parle de la joie, ben, la joie, c'est une émotion. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, où j'avais souligné le fait que dans la définition de cette émotion qui est la joie, le fait que ça caractérise un bien qui nous convient. J'éprouve de la joie parce que c'est quelque chose qui me convient. Alors, la question qu'on peut se poser et qu'il faut qu'on se pose d'ailleurs, ben finalement, donc le bien qui me convient, enfin, quelle est la source de cette joie? Si je prends, enfin, Paul, par exemple, Paul va dire aux Philippiens, vous connaissez très bien ce texte, on va le lire d'ailleurs tout de suite, hein, mais Paul dit aux Philippiens, alors qu'il est lui-même en prison à ce moment-là, hein, qu'il est persécuté, il va dire aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Bon, ça, c'est la version Louis II. Maintenant, je vais vous lire Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9, dans la version Parole de vie. Il nous est dit ceci. Au revoir, mes amis. Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. Donc là, je suis en train de vous parler, quelle est la source de notre joie? Quelle est la source de ma joie? Quelle est la source de la joie de l'apôtre Paul, malgré qu'il était en prison? Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens? Eh bien, il dit, voilà, trouvez votre joie en lui. La source de votre joie, eh bien, elle est en lui. Donc, je vais continuer ce texte de Paul aux Philippiens. Il va dire au verset 5, et on va retrouver là aussi tout un certain nombre d'émotions. Soyez aimables et bons envers les autres hommes. Que tous soient obligés de reconnaître votre douceur et votre désintéressement. Rappelez-vous que le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors, si vous faites ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, donc ça nous dépasse, quoi, c'est la paix de Dieu, eh bien, elle gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ. Enfin, mes frères, que tout ce qui est vrai, noble, honorable, ce qui a une réelle valeur, ce qui est juste, pur, digne d'être aimé, occupe vos pensées, tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et faire. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Quand on lit ce texte, donc particulièrement les premiers versets, hein, où Paul va dire, mais réjouissez-vous en tout temps. Encore une fois, on ne peut pas lire ce texte sans souligner le fait que, alors que Paul dit ça, bien, il était persécuté, il était en prison. Comment peut-on être joyeux? Comment on peut, d'une façon d'ailleurs au départ innée, hein, je vous rappelle ce qui se passe dans notre cerveau quand on éprouve ce sentiment de joie, hein, comment être joyeux? Enfin, est-il possible d'être joyeux même quand enfin, les situations, les circonstances sont contre nous? Est-ce que Paul est en train de nous parler sans savoir de quoi il parle? Enfin, personnellement, je pense que, enfin, vous allez dire comme moi, je suppose, que Paul savait exactement ce qu'il disait. Et il savait de quoi il parlait, même si c'est difficile à imaginer. Et enfin, il suffit aussi d'ailleurs de regarder dans notre vie. Mais même si c'est, voilà, comment je vais dire ça, même si c'est difficile à imaginer, ben, en tout cas, mon expérience, mais déjà ce que dit la Bible et ce que dit Paul ici, ben c'est vrai. Et c'est possible d'être dans la joie. C'est possible d'avoir en nous ce sentiment de joie qui est à ce moment-là un don de Dieu, parce que ce n'est pas la joie qui dépend des situations et des circonstances. Et on peut éprouver de la joie, même dans la difficulté. Alors, c'est là où je reviens à cette définition de la joie tout à l'heure, où la joie enfin, se manifeste quand quelque chose de bien qui nous convient. Quelle est, on peut donc de nouveau, mais je repose la question, je me la pose en même temps, hein, quelle est cette source du bien qui me convient? Je crois que c'est ça qui fait toute la différence d'ailleurs. Et c'est ça qui permet à l'apôtre Paul de pouvoir exprimer ce sentiment de joie, malgré le fait qu'il est en prison, donc qu'il n'a pas sa liberté, malgré le fait qu'il est donc persécuté. Excusez-moi. Alors, on peut se poser la question de nouveau. Je crois que ça, c'est quand même une clé. Sur quelle fondation est construite ma vie? Si les circonstances de ma vie, si les choses, mon vécu de tous les jours m'écrasent, peut-être que la source de ma joie, elle est peut-être pas située au bon endroit. Alors, on peut, sur quoi est construite ma vie? Sur quelle fondation est construite ma vie? Il me semble, je suppose que je vais peut-être un petit peu limiter les choses ce matin, mais en tout cas, si je prends, il me semble qu'il y a au moins deux grandes orientations. Soit la source de ma joie, donc ce qui est devenu, ce qui est inné en moi, encore une fois, au départ, la joie, c'est un sentiment qui est inné, c'est-à-dire je ne le contrôle même pas. Hein. Et est-ce que les plaisirs qui vont me procurer justement la joie, la fondation, la source, eh bien, est-ce qu'ils sont orientés par ma nature adamique? Je vous rappelle que cette nature adamique, malheureusement, on l'a tous, on est né avec. Et en tout cas, elle est dégénérée à cause du péché originel d'ailleurs. Mais c'est une réalité. En tout cas, moi, je l'ai tellement réalisé dans ma vie. Alors ça, c'est une réalité. Et puis, mais alors, est-ce que plutôt ma joie pourrait pas être orientée par ma nature régénérée, celle-ci, celle que Dieu est en train de transformer, changer? Celle qui se transforme par l'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie, celle qui est en train d'être changée par les lois que Dieu vient écrire dans mon cœur et dans mon esprit. Et il me semble que c'est là où il y a toute la différence, c'est-à-dire que on va c'est tout le sens de cette nouvelle alliance. Je le saisis tellement. Alors, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que je vois à quel point l'impact dans ma vie de cette source qu'est l'écriture qui vient agir en moi, cette écriture que Dieu vient écrire dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, eh bien, a un impact dans ce que je suis. Je suis pas en train de vous dire, frères et sœurs, que moi je suis déjà arrivé, encore une fois. Et je vous rappelle ce qu'on en discutait mardi, enfin ce petit texte que je vous avais partagé mardi en tout cas, dans un des éléments qu'on avait discuté ensemble, le fait qu'on ait une construction, le temple du Saint-Esprit qui est en construction, il n'est pas terminé. Je sais bien que je ne suis pas terminé, mais en tout cas, cette construction, ce que Dieu écrit dans mon cœur, eh bien, c'est, ça modifie ce que je suis, et je vais dire, parce que je le crois, ça modifie même en moi, les choses, ce qui me fait ressentir les choses, ce qui me fait donc ressentir aussi cette joie. Je remarque quand même que quand on parle des émotions, eh bien, et c'est aussi un constat que Dieu fait dans sa parole, parce que l'apôtre Paul va dire que on doit enfin, jusqu'à la fin de nos jours, on aura à faire mourir cette nature de chair. Donc, ça veut bien dire qu'en nous, il y a malgré tout toujours ces sentiments-là. Et tout ça pour dire que, quand on a des émotions positives ou négatives, eh bien, je ressouligne cet élément-là, c'est que il faut qu'on ait conscience. Enfin, voilà, dans notre raisonnement, il faut qu'on ait conscience qu'on a en nous des émotions qu'on ne va pas contrôler au premier abord. Je peux être face à une situation, je peux être un bon chrétien, je peux être face à une situation, eh bien, je peux avoir une réaction, je vais dire comme ça, épidermique, que je ne contrôle pas et qui n'est pas forcément celle que Dieu voudrait. Dans ce cheminement des émotions, tout ce qui se passe dans notre cerveau, à un moment donné, on fait quand même intervenir la raison. Ce que Dieu fait dans nos cœurs, ce que Dieu écrit dans nos cœurs, c'est quelque chose qui doit impacter en tout cas notre vie. Et là où ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si donc cette source qui est une réalité des plaisirs orientés par ma nature adamique, qui est une réalité, eh bien, celle-ci doit dire et devrait être en phase de diminution de jour en jour pour laisser grandir en moi cette construction qui est en mouvement, cette construction qui est dans cette nature régénérée et que je veux faire grandir en moi. Dieu est celui qui veut écrire ses lois dans nos cœurs et dans notre âme. Dieu est notre créateur. Et il sait mieux que quiconque ce qui est notre bien. Ça, c'est un fondement, il me semble, en tout cas, donc, pour ma vie. Moi, je conçois et je réalise tous les jours que, j'admets tous les jours que Dieu sait mieux que moi. Je sais que Dieu sait mieux que moi ce qui peut me faire du bien, ce qui peut me faire du mal. Je sais que ce que Dieu sait mieux que moi, ce qui peut être la source de mon bonheur et de ma joie, quand on parle de la joie. Et en tout cas, je pourrais vous dire ceci, c'est que mon expérience, mon vécu, c'est que à chaque fois que j'ai accepté l'enseignement de mon Père Céleste et que j'ai pu vivre, quelles que soient les circonstances, une véritable joie, au-delà de la situation. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pris une claque dans la figure, à un moment donné, mais m'appuyer et savoir que Dieu a tout, il a tout sous contrôle, il a tout dans sa main, et m'abandonner en lui, et laisser, et vivre, pas avec cette nature adamique, qui est toujours là, mais que je peux faire mourir et plutôt laisser vivre cette nature régénérée que Dieu veut mettre en moi et qu'il construit en moi, eh bien, ça, c'est une source de joie. Je veux faire la volonté de Dieu. Alors, et même, pour vous dire, mais dans mes réflexions, eh bien, je suis souvent amené à me dire, mais qu'est-ce que, pour mon cas par exemple, qu'est-ce que je suis bête quelquefois, mais aussi quand j'échange avec des personnes, je comprends des situations qu'on m'explique, je me dis, mais dans un certain sens, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Enfin, c'est pas dans le sens que je veux abaisser la personne, je pense que vous comprenez bien mon propos là, ce matin, mais voilà, qu'est-ce qu'on est bête quelquefois à tourner autour du pot, à perdre du temps, à ne pas vouloir entendre et recevoir ce que Dieu nous dit dans sa parole et ce que Dieu nous dit quand il veut écrire ces choses dans nos cœurs, si on l'ouvre bien sûr, mais parce que quand on est dans cette situation là quelque part, c'est un peu comme si on voudrait dire à Dieu écoute Dieu, tu te trompes quoi, moi je sais mieux que toi. Dieu c'est tellement mieux que nous, il se trompera jamais. Vous savez, frères et sœurs, par exemple, pour essayer d'approfondir un peu le propos de ce que je suis en train de vous dire, quand on va parler, par exemple, au sujet du pardon, enfin du jugement. Et vous savez, je vois autour de moi et je vais vous dire ça comme ça, avec une infinie tristesse, parce que c'est vrai, des personnes qui sont malheureuses, je les vois tellement malheureuses. Et j'ai encore cette semaine eu des discussions avec une personne avec tellement de ressentiments, d'amertume, enfin de mal-être. Et parce que voilà, ce sont des réalités. Rongé par ce sentiment d'injustice à son égard. Alors que s'abandonner, faire confiance au Seigneur, quand on parle du pardon, par exemple, ou du jugement, hein, de toute façon, Dieu ne nous dit de pas juger, hein, parce que de toute façon, on sera mesuré à la mesure dont on se sert. Hein, je pense que souvent, on l'oublie. Mais si on va parler, par exemple, du pardon, le pardon, c'est quand même un point tellement important, parce que ça nous bouffe, hein, entre guillemets, quand on ne pardonne pas. Je sais que c'est difficile. Je sais, parce que je ne suis pas autrement qu'un autre. C'est difficile d'abandonner sa justice. Quand on est, par exemple, accusé injustement ou qu'on nous fait du mal, pardonner, c'est pas un geste facile. C'est même un geste difficile. Enfin, voilà. Mais Dieu nous dit, pardonne. Alors, pourquoi je vous parle de ça ce matin, encore une fois, parce que le pardon, on peut en parler souvent, et parce que moi, je vois autour de moi, dans ce que j'entends, dans ce que j'échange avec des personnes, si c'est une réalité, je peux pas vous dire autrement. Des gens qui sont bouffés par le non-pardon. Parce qu'ils veulent absolument que la justice soit faite. Alors, quelque part, c'est juste que la justice soit faite, mais elle le sera de toute façon. Si je fais confiance au Seigneur, je sais que Dieu est toujours juste et que sa justice, elle sera absolue et absolument juste. Mais il faut que j'abandonne ma justice pour que la justice de Dieu s'accomplisse. Et pardonner avant même, parce que certains disent, moi je veux bien pardonner, mais si on me demande pardon, je vais pardonner. Et que quand on, et c'est vrai, dans un certain sens, c'est vrai quand même, si la personne me demande pardon, ça me libère. Enfin, c'est censé me libérer et oui, ça libère. Mais si je vois dans les situations des personnes qui attendent que la personne en face demande pardon, enfin, celle qui nous a offensés demande pardon. Et quand Dieu nous dit, pardonne. Mais le jour où tu pardonnes, en fait, avant même que la personne t'a demandé pardon, par exemple, parce que peut-être d'ailleurs, elle ne te demandera jamais pardon. Mais si toi, tu pardonnes, tu es libéré tout de suite. Et ça, je peux vous le dire parce que je le sais, parce que je l'ai vécu et parce que je le vis. Pour revenir à ce sujet, en tout cas, ce que Dieu nous dit dans sa parole et ce qu'il vient écrire dans nos cœurs. Si, ce que Dieu écrit dans nos cœurs, de toute façon, c'est pas en dehors de ce que cette parole écrite, de ce qui est dans notre Bible. Ce que Dieu écrit dans nos cœurs, il vient mettre en nous, la Bible nous dit que Dieu nous rend capables. Dans notre humanité, on n'est pas capable. Mais, parce que ce matin, je vous parle aussi, le sujet principal, c'est la joie. Et je voudrais vous dire ceci. Je reviens sur cette notion de l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison, qui va dire aux Philippiens, réjouissez-vous toujours en tout temps, en toute situation, réjouissez-vous. Ayez de la joie tout le temps, quoi. C'est quelque chose qui est impossible dans notre humanité, bien sûr. Mais Dieu nous rend capables. C'est-à-dire que quand Dieu vient écrire les choses dans mon cœur, là où dans mon humanité je suis incapable, à ce moment-là je deviens capable. Parce que Dieu, par son esprit, dans sa grâce infinie, est venu mettre en moi ces choses dans mon cœur. Alors comment c'est possible? Ben déjà, il faut que j'ouvre mon cœur, il faut que j'accepte que Dieu vienne écrire. Il faut même que je lui demande, moi, enfin, dans mes temps de prière, dis Seigneur, viens mettre tes lois dans mon cœur, viens me révéler, viens, enfin, que ce soit ta volonté, non pas ma volonté. Mais quand je fais cette prière-là, ce n'est pas seulement des mots, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est une vraie, enfin, quelque chose de vrai que j'exprime devant le Seigneur. Je veux vraiment que Dieu vienne mettre ses lois dans mon cœur. Faisait ça, on peut avoir des souffrances. Et puis, dans notre vie de tous les jours, on en a tous de la souffrance. Et d'ailleurs, dans tout ce que je suis en train de vous dire, là, je voudrais surtout vous dire que, par exemple, quand je parlais du pardon, hein, je dis voilà, pardonnons, parce que Dieu nous demande de pardonner. De toute façon, on est libéré. C'est une certitude, je l'ai vécu tellement de fois. De pardonner même avant que l'autre nous demande pardon, je ne dis pas que l'autre ne doit pas nous demander pardon. Hein, c'est deux choses différentes. Bien sûr que la Bible nous demande d'aller demander pardon quand on offense quelqu'un. C'est quelque chose qu'on doit faire, ça c'est sûr. Hein, mais voilà, je ne voulais pas que vous pensiez que je dis c'est pas grave, l'autre ne demande pas pardon, c'est pas grave. Hein. Si, si, il faut qu'on demande pardon, effectivement. Mais voilà. En tout cas, enfin, Dieu, ce que je voulais surtout vous dire, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que la source de notre joie, enfin, je peux absolument, c'est une réalité de pouvoir expérimenter la joie malgré la situation difficile, malgré les circonstances, quand la source de ma joie, quand ce qui fait comme on l'a vu tout à l'heure dans la définition, hein, je vais reprendre, hein, cette définition qui dit que la joie, hein, vient d'un bien qui me convient. Quand cette parole de Dieu, quand cette chose, quand cette loi que Dieu vient écrire dans mon cœur devient pour moi un bien qui me convient. C'est-à-dire, c'est plus mes propres raisonnements seulement alimentés par ma nature humaine, mais c'est mon intelligence transformée par l'action et l'esprit de Dieu. Alors, quand elle devient un bien qui me convient, alors je peux, malgré les situations et les circonstances que je suis en train de vivre difficiles, malgré tout, eh bien, expérimenter une vraie joie. C'est pas expérimenter dire bon ben voilà j'ai la joie et puis que c'est pas vrai quoi, mais c'est expérimenter une vraie joie, c'est-à-dire ne plus rester dans cette situation comme je vous expliquais tout à l'heure de cette personne par exemple que j'ai eu au téléphone qui est dans un malheur absolu, hein, écrasée d'une façon terrible par son sentiment d'injustice, enfin bon voilà je vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais voilà je peux vivre des situations compliquées. Mais être dans une situation malgré tout de paix et de joie, parce que la source de ma joie, eh bien, n'est plus seulement celle qui est alimentée par ma nature adamique, celle qui me fait du bien, eh bien, elle est placée ailleurs. Et elle est placée ailleurs parce que j'accepte cette véritable grâce de Dieu, hein, alors qu'il vient écrire ces choses dans mon cœur. Alors, j'aimerais vous dire, parce que là, vous pouvez peut-être me dire, bah, ça c'est toi qui causes, Jean-Bernard cause toujours, hein, t'es qu'un homme. Alors là, oui, je suis qu'un homme. Bon, j'ai fait quelques expériences, mais vous aussi, bien sûr. Maintenant, si c'est Jésus qui dit, voilà, mais je vais vous dire ce que Jésus dit. Hein, on va lire dans Jean, chapitre 15, versets 9 à 12. Voilà ce qu'il nous est dit ici. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Voilà, ça c'est le premier élément. Et le verset 11 est très intéressant. Jésus va dire, je vous ai dit cela, donc ce que je viens de vous lire, afin que ma joie, celle qui est en moi, Jésus, eh bien, soit en vous. Et que votre joie soit complète. C'est étonnant. Que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus est en train de dire ici, donc là c'est plus Jean-Bernard qui parle, alors bon, je suis en train de vous parler, mais je vous dis ce que Jésus dit. Hein? C'est que la joie que Jésus donne, donc cette joie complète, parfaite, eh bien, on l'a quand j'obéis au commandement du Père et quand je demeure dans son amour. Ça revient, pour moi, enfin je le comprends comme ça, quand je laisse Dieu écrire ses lois dans mon cœur, quand je les accepte, et quand je souhaite les vivre avec mes limites, oui, bien sûr, hein, en sachant que je suis en construction, que j'ai, je suis loin d'avoir terminé, mais Jésus a quand même fait cette promesse. La joie complète, la joie parfaite. Alors moi, j'enlève toute mon intelligence et je laisse l'intelligence de Dieu me parler. Et je veux dire, Seigneur, oui, même si je ne comprends pas tout ce que tu dis avec ma nature humaine, eh bien, j'accepte. J'accepte. Et enfin, bon, maintenant je dis ça comme ça, mais je sais que c'est la vérité, parce que je l'expérimente. Pierre, l'apôtre Pierre, va dire aussi, dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 8 et 9, il dit, vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir. Encore et à cause de lui, vous êtes transporté de joie. À cause de lui. À cause de ce qu'il est. À cause de cette réalité, de cette œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous. Eh bien, on est transporté de joie. Et Pierre va dire d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Et tout le reste, c'est beaucoup moins important. Alors, la joie, qu'est-ce qui fait la joie de la fiancée? Ben déjà, la première chose, justement, c'est que je suis la fiancée. C'est qu'on est les uns et les autres participants de l'Église qui est fiancée de Jésus, qui sera un jour l'épouse. Alors, j'arrive à ma conclusion ce matin et j'aimerais vous dire ceci. Déjà, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Et Satan, qui, à cause du péché originel, a un impact dans notre nature adamique, eh bien, pour dire autrement, j'aimerais vous dire ceci, c'est que notre nature adamique nous ment. Et elle fait plutôt notre malheur que notre bonheur. Notre nature adamique, quand elle veut nous faire croire que, par exemple, je vais prendre des exemples extrêmes, mais si, vous voyez, ouais, je vais prendre un exemple extrême. Quelqu'un qui se drogue, bon, vous savez tous que c'est une drogue, mais il va se droguer parce que dans son cerveau, enfin, ce qui se passe, c'est que ce besoin est créé parce que ça lui procure de la joie de consommer de la drogue, par exemple. Sinon, il ne le ferait pas. Eh bien, ou celui, par exemple, qui est alcoolique, c'est une drogue aussi, en quelque sorte. Bref. Et pourtant, cette joie-là, bien, l'amène à la mort, l'amène à la destruction de sa nature, l'amène à la destruction de son corps. Notre nature adamique nous ment. Parce que notre vraie joie, eh bien, elle est ailleurs. Notre nature adamique va nous faire croire que ne pas obéir, par exemple, à la parole de Dieu. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. La nature adamique, elle va dire, mais Dieu me dit, tu dois pardonner. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, encore une fois. L'autre ne m'a pas encore demandé pardon. Ben non, je ne vais quand même pas pardonner. Après tout, vu le mal qu'il m'a fait, il faut d'abord qu'il me demande pardon, puis après je pardonnerai. Et il faut absolument qu'il répare avant que moi je puisse avoir une attitude positive envers lui, parce que s'il ne répare pas, il est hors de question que j'ai une attitude positive avec cette personne. Ça, c'est notre nature. Et Dieu nous dit le contraire, il dit voilà, pardonne. Et ma nature adamique va dire, mais si tu pardonnes pas, mais comment tu vas pouvoir être joyeux? Enfin, tu restes sur le poids qui t'écrase. Et puis, la source de tout ça, on en a parlé un peu tout à l'heure, l'amertume, enfin, perception d'une injustice, etc., etc., et puis c'est en train de t'écraser, c'est en train de te détruire. Ça, c'est ce que te dit ta nature adamique. Elle te ment. Parce qu'en réalité, si tu obéis à ce que Dieu dit, et si tu pardonnes, tu es libéré tout de suite. Ça veut dire que le problème n'est pas réglé. Enfin, là, tu n'as toujours pas demandé pardon, tu es toujours dans l'injustice, enfin, c'est pas normal. Mais tu es libre. Ça ne te touche plus. Tu es guéri. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit fait ton bonheur. Et ce que ta nature adamique te dit, ben, fait ton malheur. Mon frère, ma sœur, la source de notre joie, qui est celle de la future épouse de Christ, hein, de l'Église que nous formons, eh bien, je dirais quelque part que finalement, c'est Jésus lui-même. Dans cette notion de parole faite chair, c'est dans l'obéissance à cette parole que Dieu lui-même vient écrire dans nos cœurs, en tout cas à nous qui acceptons que Dieu écrive dans nos cœurs, cette loi qui est, comment je peux dire ça, tellement merveilleusement bienveillante finalement envers nous, qui fait notre bonheur, qui fait réellement notre joie au-delà des circonstances, qui nous remplit de cet amour de Dieu. Personnellement, je reste convaincu que la préparation au mariage de la future épouse, telle qu'elle nous est dite dans cette parole, hein, quand je rappelle, hein, les fiançailles, c'est le temps où l'époux est en train de préparer la nouvelle demeure, mais où l'épouse, elle est en train de se préparer, eh bien, moi, je suis convaincu que cette épouse qui se prépare, c'est vraiment l'acceptation de se laisser transformer par l'Écriture. Cette acceptation qui finalement me mène déjà sur terre à cette joie, mais aussi à ce bonheur éternel dans le futur, tout en recevant déjà aujourd'hui cette joie parfaite. Contrairement à ce que ma nature adamique me dit, peut-être souvent, « Oh, mais si tu obéis à Dieu, tu seras malheureux. Hein. » Faisait ça. Se préparer en tant qu'épouse en recevant cette parole. Eh bien, c'est ça aussi qui me libère de cette nature adamique qui finalement veut me détruire. Les émotions de ma nature humaine déchue meurent en présence de l'action du Saint-Esprit dans mon âme. Cette nature adamique, elle sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Et donc, ces émotions qu'on va ressentir avec cette nature adamique, eh bien, on la ressentira jusqu'à la fin de nos jours, mais cet Esprit de Dieu qui vient écrire dans mon cœur fait mourir un petit peu à la fois toutes ces interactions. En tout cas, c'est ce que je crois parce que c'est ce que je vis. Et de nouveau, j'attire votre attention sur le fait que le grand mensonge de Satan est de nous faire croire que seul nous soumettre à nos émotions primaires de notre nature adamique déchue peut nous rendre heureux. C'est un grand menteur. Il veut nous faire croire qu'il est impossible d'être heureux en obéissant à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, à celle qui est écrite. Je ne vous parle pas de la loi légaliste. Je ne vous parle pas de loi humaine. Je vous parle de cette loi divine, écrite dans nos cœurs par Dieu lui-même, qui, elle, est forcément juste. Frères et sœurs, la vérité, c'est que Satan nous ment. Et que finalement, par son mensonge, eh bien, il nous tient esclaves de notre malheur. La Bible nous dit qu'on doit être esclave de Jésus. Ben, il vaut mieux être esclave de Dieu, qu'être esclave de ce Satan, de Satan menteur. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, pour terminer, qu'il y a véritablement une vraie joie émotionnelle. Je reviens à cette notion d'émotion, ce qui est une réalité, ce qui se passe dans notre cerveau. Il y a vraiment une vraie joie émotionnelle, réelle, véritable, quand Dieu lui-même vient écrire cela dans nos cœurs, quand sa volonté devient pour nous, à ce moment-là, le bien qui nous convient, pour reprendre la définition de la joie. En tout cas, c'est ce que j'expérimente. Et moi, je suis reconnaissant au Seigneur de comprendre à quel point Satan est un menteur et d'expérimenter à quel point mon Dieu libérateur est vraiment la source véritable de la vraie joie. Que Jésus est vraiment, véritablement la source de ma joie. Que sa parole, que mettre en application cette parole écrite par Dieu lui-même dans mon cœur, eh bien, frères et sœurs, ça n'enlève pas mes difficultés. Ça n'enlève pas mes problèmes. Enfin, j'ai des problèmes comme tout le monde. J'ai des gens qui me trahissent comme tout le monde. Enfin, je suis un homme comme vous. Mais enfin, j'espère en tout cas que vous comme moi, eh bien, cette fondation, ce bien qui est le seul qui peut vraiment nous convenir, eh bien, il est placé en Jésus, cette parole écrite par Dieu lui-même dans nos cœurs. La source de la joie de la fiancée, ce que j'ai en tout cas moi compris, saisi, eh bien, elle est là. Et je vous assure que c'est vrai. Et je suis heureux de vivre cela, de l'avoir réalisé, et je ressens ça tellement comme une grâce de Dieu. Vous savez, des fois, on me dit, mais j'ai ma femme qui me dit quelquefois, mais toi, tu es capable de séparer les choses. Non, c'est pas tellement que je sépare les choses, c'est pas tellement, je sais pas comment dire, faire la part des choses, mais c'est que je fais le choix que ce qui est vrai, ce qui est juste, eh bien, c'est ce que Dieu dit. Et je remercie le Seigneur d'écrire dans mon cœur et de continuer à le faire parce qu'il y a encore beaucoup de boulot avec moi. Ça, c'est une certitude aussi. Et je remercie le Seigneur pour ça. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin et qui termine ces trois parties sur le domaine de la joie. J'aimerais tellement que chacun d'entre nous, je pense que je suis pas le seul à expérimenter ça, à l'avoir expérimenté, je voulais juste vous partager ces expériences. Voilà, ce matin, je vous ai lu quelques textes de la parole de Dieu, mais j'en avais relevé plein d'autres, mais il y en a tellement dans la Bible. Il y a une telle richesse si merveilleuse. Encore une fois. Alors, je conclue la conclusion en disant que Dieu sait tellement mieux que nous ce qui est bon pour nous et ce qui peut être notre joie parfaite. Dieu sait mieux que nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.